Alors nous retrouvons à présent, comme chaque mois, le médiateur de Radio France, Bruno Denas. Beaucoup de questions d'auditeurs sur nos dernières émissions et notamment sur notre enquête menée avec 18 médias internationaux sur cette journaliste assassinée qui enquêtait sur la corruption à Malte, Bruno.
Alors oui, des auditeurs vous félicitent d'avoir repris cette enquête. Axel vous écrit « Bravo pour le remarquable travail que vous faites dans cette affaire. Votre cause est noble, vous œuvrez pour le bien public. » A l'inverse, il y a tous ces auditeurs fâchés par une fois encore l'absence de réaction concrète de l'Union européenne. Une journaliste assassinée, des ministres et leurs proches corrompus, pourquoi l'Union européenne ne réagit-elle pas, vous demande Romain.
Alors Sylvain Tronchet, c'est vous qui avez mené cette enquête. Est-ce qu'on peut parler d'un silence complice de l'Union européenne ?
Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'il y a, et il y a toujours eu une vraie difficulté pour l'Europe à montrer du doigt l'un de ses membres. Il y a de nombreux responsables à Bruxelles qui pensent que ça nourrit le sentiment anti-européen d'une certaine manière. Et puis Malte a toujours des alliés en Europe. Le groupe des sociodémocrates au Parlement européen, dont fait partie le PS français, a toujours soutenu le gouvernement travailliste qui fait partie de ce groupe, le gouvernement travailliste maltais. Et puis à la Commission européenne, le Premier ministre Joseph Muscat a là aussi des alliés, des amis, parce qu'il aide à trouver des majorités. Alors, suite à nos révélations, il y a eu quelques réactions. La commissaire européenne à la justice a annoncé qu'elle allait se rendre sur place, mais dans l'état actuel des choses, officiellement, la Commission européenne considère toujours qu'il n'y a pas de problème d'état de droit à Malte.
Une autre question là-dessus, Bruno ?
Oui, plusieurs auditeurs vous interpellent sur tous ces scandales révélés, dont vous avez d'ailleurs parlé, mais pour lesquels on a l'impression qu'après, eh bien, plus rien. Pour Marie, où en sommes-nous finalement des Panama Papers et autres Paradise Papers ?
Oui, alors, il y a eu quelques réactions concrètes après ces deux affaires dont vous parlez, notamment les Panama Papers, notamment ce qu'on a appelé la mise en place du système automatique d'échange d'informations, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes français et que vous ouvrez un compte aux Bermudes ou en Suisse, la Suisse ou les Bermudes vont le dire à la France. Il y a eu des contribuables poursuivis également. Aux dernières nouvelles, en France, il y en avait un peu plus de 400 dans le viseur de Bercy. Ceci dit, la convention d'échange d'informations, elle n'a pas été signée par certains pays, et notamment les États-Unis, par exemple. Un État comme le Delaware peut être considéré aujourd'hui comme un vrai paradis fiscal. En Europe, certains pays, dont Malte, traînent toujours des pieds pour appliquer les dernières mesures mises en place contre le blanchiment d'argent. Et puis lors de notre enquête sur Malte, on a vu que le système de vente des passeports maltais à des ressortissants européens ou extra-européens est un système qui peut permettre de contourner les mesures sur le secret bancaire, une histoire sans fin, quoi, en quelque sorte.
D'autres réactions, Bruno Denas, cette fois concernant notre enquête sur les zones d'ombre du patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn.
Alors, vous évoquiez notamment ses salaires assez délirants, mais beaucoup d'auditeurs ne s'en offusquent pas. Un patron compétent qui redresse des entreprises n'est jamais trop payé, estime Norman. Et Muriel vous demande, pourquoi en France s'en prend-on tout le temps à ceux qui réussissent, qui gagnent peut-être beaucoup d'argent, mais sauf des entreprises, innovent, ont une vision d'avenir et dirigent des dizaines de milliers de salariés ?
Bon, alors il faut peut-être juste rappeler que notre métier, c'est pas la communication. Pour dresser des statues ou chanter les louanges de dirigeants d'entreprise, il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est pas la vocation de notre émission. Pour le reste, Philippe Reltien, c'est vous qui avez longuement enquêté sur Carlos Ghosn. Je vous laisse répondre.
Oui, attendez, je voudrais ajouter à la remarque de Norman. Un patron compétent qui redresse des entreprises n'est jamais trop payé, sauf quand ses rémunérations sont cachées. Donc la question reste, Carlos Ghosn a accepté cette année une diminution de plus d'1 million d'euros de son salaire français, mais qu'en est-il de ses autres salaires chez Nissan et Mitsubishi ? Mystère. D'autre part, réponse à Muriel, l'État avec 15% de part dans le capital peut dire non à des fermetures d'usines en France. L'État actionnaire, ben c'est nous quelque part. Sur 20 ans, grâce au cost-killing, aux synergies, l'emploi durable chez Renault a diminué en France. Et s'il augmente dans le monde pour le groupe, c'est grâce à l'absorption des usines, grâce à la concentration. Alors vous avez raison Muriel, c'est bien qu'un patron réussisse, innove, motive. Carlos Ghosn est excellent pour ça. Mais c'est bien aussi d'assumer les erreurs de vos équipes et de remettre votre titre en jeu de temps en temps. C'est ce que pensent les rares actionnaires critiques de sa toute-puissance. Et tant que Renault roule, tout roule.
Merci à toute l'équipe de Secret d'Info. Merci Bruno Denas. On vous retrouve évidemment dans un mois. Et en attendant, continuez à envoyer vos commentaires sur le site du médiateur, médiateur.radiofrance.fr.